Bonjour Jean-Guillaume.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Comment ça va? Je vois que vous êtes très occupé avec votre micro.
Ouais, ouais, moi j'ai plein de soucis techniques, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est que la radio, vous Thierry. Vous êtes bien au chaud dans un studio avec des tas de boutons. Moi, j'en ai que deux des boutons et ça ne marche jamais.
Est-ce que c'est ça la révolution du télétravail?
Ouais, c'est bien ça, la révolution du télétravail, c'est que ça ne marche pas.
Mais non, pour vous, ça ne marche pas.
Bah, écoutez, oui, moi, ça ne marche pas. Moi.
Bon, eh ben, écoutez, en tout cas, on va retrouver Elena
Morna. Ça marche pour vous?
Elena qui est en direct et qui, elle, est aussi à Paris. Donc voilà, c'est l'application pure du télétravail. Bonjour Elena.
Salut à tous, vous m'entendez bien?
Mais oui. Bien sûr, comme si ça vous étiez avec vous, nous.
Tout fonctionne pour moi, Jean-Guillaume. Tout fonctionne.
Ça marche toujours bien, moi. Hein, j'ai toujours des bonnes notes, moi. Moi, je suis prince de la classe, moi.
Les auditeurs, ils peuvent nous voir aussi, c'est ça, Thierry?
Les auditeurs pourront nous voir. Enfin, en tout cas, on aura le Zoom vidéo qu'on pourra mettre, évidemment, à l'antenne une fois qu'on podcastera l'émission.
Par contre, est-ce qu'on va vraiment y gagner quelque chose à ce moment-là?
Ah, on va voir, on va voir.
On va voir. Alors, effectivement, vous l'avez dit, le thème du jour, c'est la révolution du télétravail. Une révolution qui a explosé, on l'a vu, pendant le confinement. Et visiblement, à Lisbonne, vous êtes prêts à y retourner. Alors, une organisation qui bouleverse pas mal de choses dans nos vies professionnelles et personnelles. Alors, parmi les points positifs, quand même, il faut le dire, le télétravail permet de travailler depuis le Portugal pour une entreprise française ou all over the world, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, pour l'ensemble des entreprises, il y aura eu un avant et un après confinement en matière de télétravail. Les salariés étaient en demande, les managers étaient plus frileux, 3% seulement de télétravailleurs en France avant le confinement, 25% aujourd'hui, et c'est parti pour croître ou pour durer. Même le patron, par exemple, de Facebook, Mark Zuckerberg, envisage le télétravail pour 95% de ses collaborateurs d'ici 2 ans. Alors visiblement, vous aussi, vous allez devoir vous remettre, puisque d'après ce que j'ai compris, Lisbonne va être en partie reconfinée, c'est bien ça?
Non.
C'est pas gentil ce que vous nous dites.
On vous connaît, vous et vos amis.
C'est pas du tout ce que je vous souhaite, d'autant que...
Vous savez quoi, il y a cinq communes dans lesquelles les bars ferment à 20h et les commerces doivent tous fermer à 20h. Qui sont des communes dans lesquelles les bars avaient rouvert un peu trop vite.
Moi, je reviens dans 2 jours, donc vous me rouvrez tout ça, s'il vous plaît. Alors,
il y a pas de problème.
Quels sont les avantages et les inconvénients du télétravail? Comment le mettre en place? Si vous faites partie des nouveaux télétravailleurs, quels sont les écueils que vous avez constatés? Surmenage, baisse de production ou au contraire, plus de production? Quelles sont les clés de la réussite pour un télétravail efficace? Vos questions, vos réactions, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux de la French Radio ou par mail, directement à Elena@lafrenchradio.pt. On verra ensemble quelles sont les clés de la réussite. Donc, et puis pour vous répondre en direct, nous sommes avec Jérémy Claus, qui est coach en management. Bonjour Jérémy.
Bonjour Elena, comment vas-tu? Merci.
Cette première sur la French Radio. Il a l'air de faire beau chez vous du côté de Neuilly-sur-Seine.
Il fait très beau, comme partout en France, je pense, et surtout très chaud. Donc finalement, on n'est pas plus mal chez soi à télétravailler.
Alors Jérémy, on va donc parler de cette nouvelle génération de télétravail, de télétravailleurs. Je vous présente quand même avec nous Thierry Burtin, qui dirige la French Radio, et son acolyte Jean-Guillaume, avec qui nous allons discuter pendant 1 heure, et nos auditeurs, donc, que l'on attend nombreux. Alors jusqu'au début du confinement, les patrons étaient frileux, je le disais, par rapport au télétravail, en tous les cas en France, et pas mal aussi au Portugal. Qu'est-ce qui explique cette frilosité de la part des patrons, des managers?
Il y a différentes composantes. La première, c'est évidemment la perte de maîtrise. Quand on n'a pas ses collaborateurs à proximité, on a la perception de ne pas pouvoir maîtriser finalement leur activité et pouvoir superviser ce qu'ils font. Donc, il y a une véritable appréhension de lâcher prise et d'accepter de rendre de l'autonomie et de la responsabilité aux collaborateurs pour qu'ils puissent effectivement travailler dans de bonnes conditions et produire dans le cadre du télétravail.
Est-ce que le management à la française, voire à l'européenne, en dehors des pays anglo-saxons, est-ce que là aussi, c'est un frein au télétravail? C'est ce que vous dites, voir le collaborateur, il y a une espèce de méfiance, d'absence de confiance qui fait que le télétravail était compliqué à mettre en place?
En tout cas, c'est vrai qu'il y a un poids de l'organisation qui aujourd'hui, culturellement, fait que on a un manager, le manager a un manager, et ainsi de suite, et qu'on a une logique en présentiel, en l'occurrence, d'être constamment en interaction et donc supervisé et suivi dans le cadre de nos tâches, qu'on n'a plus en télétravail. Donc, ce changement de normes crée forcément de l'appréhension pour savoir comment rester productif.
Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils attendent pour créer le télémanagement. Ça semble pas bien compliqué.
Eh ben, c'est ce qu'on va faire.
Alors, moi personnellement, j'ai plein d'idées sur le sujet, mais je vous laisse dérouler.
Non, c'est une simple question.
Effectivement. Donc, la confiance, c'est quand même... voilà, le télémanagement, la base du télémanagement, c'est la confiance entre les collaborateurs, finalement. C'est le premier pas.
Alors, c'est une des étapes. Donc, pour la petite histoire, effectivement, moi, j'ai un client avec qui je travaille qui m'a sollicité la semaine dernière pour réfléchir à cette problématique, qui est comment, en fait, impliquer les managers dans cette démarche du télétravail et voir quelle est finalement leur place en tant que pivot pour que le télétravail puisse fonctionner de façon sereine avec l'ensemble de la structure. Et donc, effectivement, ce qu'on attend d'un manager, c'est de fixer de nouvelles normes de fonctionnement avec leurs collaborateurs pour créer cette relation de confiance à distance et que chacun puisse retrouver ses marques dans un mode de fonctionnement distanciel.
Ce que vous voulez dire aussi, c'est que donc il y a la confiance, il y a le volontariat de la part des travailleurs et des collaborateurs, ça aussi c'est essentiel. Mais ce que vous voulez dire aussi, c'est que quand vous parlez de télémanagement, Jean-Guillaume a raison de le souligner, c'est que ça ne s'improvise pas en fait.
Ah non.
Ça se met en place avec quoi, de façon structurelle quoi.
Exactement. Alors là, clairement, ça ne s'improvise pas. Je dirais même plus que grâce à la période que nous avons traversée de confinement, c'est l'occasion de capitaliser sur cette expérience pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ça, effectivement, c'est à l'entreprise et notamment les managers de se poser ces questions-là, tant vis-à-vis de eux dans leur fonctionnement en tant que manager, qu'avec leurs équipes, pour qu'ils aient ce temps de débriefing, finalement, post-crise, pour dire finalement, qu'est-ce qu'on faisait avant la crise qui a marché pendant la crise ? En télétravail et donc on pourrait maintenir, qu'est-ce qu'on a développé pendant le télétravail et qu'on va pouvoir continuer de mettre en place et qu'est-ce qui n'a pas marché pendant la période de télétravail et donc sur lequel il va falloir qu'on innove pour rester performant. Et ça, c'est un vrai travail d'apprentissage.
Je sais que ce débriefing, vous l'avez fait avec plusieurs de vos clients et que pendant ce confinement, vous êtes attaché justement à ce que vient de dire ce nouveau mot de Jean-Guillaume qui est très bien dit, c'est le télémanagement. Mais juste avant, je voulais qu'on parle avec Louis. Louis qui nous a contacté sur la page Facebook de la French Radio. Bonjour Louis.
Bonjour à tous.
Alors, vous avez télétravaillé pendant le confinement, vous travaillez justement dans le conseil, dans un cabinet de conseil. Donc, vous avez découvert en fait le confinement pendant le télétravail pendant le confinement ?
Alors non, moi je ne l'ai pas découvert pendant le confinement. C'est une pratique, c'est quelque chose qu'on pratiquait déjà. Mais mes clients l'ont découvert pendant le confinement et ça change.
Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type du télétravail et avec Jérémy et Jean-Guillaume, on va essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc, vous vous leviez le matin, petit déjeuner, café tranquille et après douche et costard cravate ou comment ça se passait ?
Alors non, le lever déjà se fait plus tôt et le début du travail se fait plus tôt parce que les journées sont rallongées.
Ah oui, on aurait tendance à croire que vous profitiez de l'absence des transports pour que les journées soient plus courtes.
Malheureusement, non, mais tout le temps qu'on perd des échanges un petit peu off qu'on peut avoir avec tous les collaborateurs ne sont plus possibles quand on est en télétravail. Du coup, ces échanges-là, ils se formalisent dans des réunions plus solennelles, plus officielles et qui prennent plus de temps. Donc, du coup, un échange de 5 minutes que je pouvais avoir avec un collègue se transforme en un point de 30-45 minutes plus régulièrement. Donc, du coup, ça prend plus de temps et donc, du coup, on grappille sur le temps personnel. Donc, le matin, se lever se fait plus tôt, à 7 heures. Je sais que la bonne pratique serait de prendre un temps de se faire son café, de prendre un petit déjeuner. Bon, je sais pas ce que je fais. voilà.
Juste, Jérémy, je vois opiner pourquoi c'est important ou pas d'avoir un petit sas bien perso entre le lever, le petit déjeuner et le moment où j'allume l'ordinateur ou le téléphone.
Alors, je vais répondre à ce point-là, mais surtout dans ce que dit Louis, il y a énormément de choses très très intéressantes. Alors, le premier, c'est effectivement le risque avec le télétravail, c'est d'être dans cette confusion entre la partie professionnelle et la partie personnelle. Et donc, pour pouvoir, je dirais, être efficace durablement pendant une période de télétravail, notamment de confinement, il va être indispensable d'avoir des temps de préservation et de déconnexion. Et donc, le temps du petit déjeuner, notamment, c'est un temps qui est nécessaire pour être dans une énergie qui permette de tenir toute la journée. Et oui, c'est au détriment probablement de l'activité professionnelle, mais c'est ce que disait Louis. Finalement, les réunions qui sont plus chronophages parce que nécessitent plus de formalisation, etc., et ce qui se faisait avant dans un temps informel, maintenant se fait à travers une réunion formalisée, donc prend plus de temps, et donc se fait au détriment de la partie personnelle. C'est un vrai risque pour le télétravail, et donc il faut être vigilant à maintenir un équilibre entre la partie personnelle et professionnelle. Et notamment, donc, je reviens sur le temps du petit déjeuner, entre autres, est un temps nécessaire, comme on pouvait l'avoir, je dirais, habituellement quand on était en présentiel et qu'on allait dans son entreprise, qu'on prenait les transports, etc., on prenait son petit-déj le matin. Là, c'est pareil, il y a des rythmes, des rituels qu'il faut maintenir pour pouvoir rester durable et ne pas s'épuiser.
Alors, Louise, vous avez compris, hein, si ça revient, le télétravail, petit déjeuner tranquille, petit sas de décompression après une bonne nuit.
Ça va.
Et alors, donc, comment se déroule?
Je reprends ma journée.
Votre journée, oui.
Donc, en début de matinée, je fais le travail que je devrais faire pendant la journée. Et tout le reste de la journée, je fais mes réunions. Et ensuite, à partir de 17h, du coup, je prends encore 2 heures pour faire le travail que je n'ai pas pu faire le matin, ou alors le travail qu'on m'a donné au cours de la journée.
Il n'y a pas de pause déjeuner dans votre...
Si, absolument, il y a une pause déjeuner, ça j'y tiens, je prends bien 1h30 à chaque fois. Parce que
une heure et demie quand même, Louis à la portugaise quand même.
Bah, il faut.
Et alors du coup, est-ce que vous avez eu le sentiment que vos journées, elles étaient donc beaucoup plus longues, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure?
Oui, absolument, elles sont en termes de temps plus longues, oui.
Ouais. Et là, Jérémy, dans le déroulement de la journée de Louise, bon, 1h30, ça, on applaudit, hein, on aimerait tous l'avoir. Mais dans ces réunions qui s'enchaînent, c'était des réunions en visioconférence, donc j'imagine, Louise.
En call, oui, absolument.
En call. Qu'est-ce qui était dur à gérer ou qu'est-ce qui était facile dans ce genre de réunion?
Ce qui est dur, c'est que quand on est plusieurs et qu'on est tous loin des autres, le ton monte plus facilement. Parce que il est plus difficile de se faire comprendre. Souvent, le message clé qu'on veut faire passer, il n'est pas toujours aussi clair à distance. On ne voit pas les expressions de visage, on ne voit pas plein de choses, plein de gestuels qui permettent de comprendre où on veut en venir. Donc, le ton peut monter et il s'agit d'être très rigoureux dans la prise de parole de chacun et de bien laisser chacun s'exprimer tout au long de ces réunions.
Donc, Jérémy, là, il y a pas mal de choses dans ce que vient de dire Louis. Ces journées continuent, cette heure et demie de déjeuner. Et puis, on va en y venir sur ces visioconférences qui ne permettent pas des réunions telles qu'on les fait en présentiel, c'est-à-dire laisser place à un peu d'émotion.
Alors, en tout cas, il y a deux éléments qui sont fondamentaux dans ce que nous dit Louis. Le premier, c'est déjà, quand on est en distanciel, donc en call ou même Zoom, il le dit très bien, il y a des expressions qu'on n'a pas, expression du visage, etc. Donc en fait, on a une déperdition d'informations sur tout ce qui est paraverbal éventuellement et surtout non-verbal. Et la nature est ainsi faite que quand on n'a pas assez d'informations, on va chercher à l'interpréter. Et donc en fait, le vrai risque du télétravail, notamment de ces réunions à rallonge qui sont imposées dans le cadre d'un confinement, c'est qu'il y a une déperdition d'informations et donc que le ton peut monter très rapidement et que ça nécessite d'autant plus de vigilance et de rigueur, notamment sur l'objectif de la réunion. Et la question que ça pose, c'est de dire, post-confinement, quand est-ce que le télétravail, et notamment ces réunions, vont être performantes? Et en fait, on se rend bien compte que pour des réunions qui sont des réunions d'information, où on donne de l'information, ça peut se justifier. Par contre, tout ce qui est réunion d'échange et de partage, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'effectivement, on a de l'information qui est manquante, et il va y avoir un processus d'escalade où chacun va vouloir trouver sa place dans ce temps d'échange, qui va être particulièrement compliqué.
Mais alors, c'est quoi la solution?
Alors, demain, si on n'est plus confiné, c'est de faire la part des choses pour dire quand est-ce que le télétravail va être performant et quand est-ce que le télétravail sera limitant. Et en fait, pour moi, il y a 3 composantes. Il y a pour les tâches à réaliser, quand est-ce que ce sera performant ou pas, pour les réunions, dans quel cadre ce sera performant ou pas, et en fonction de l'organisation, quelles sont les conditions qui sont propices au télétravail, donc à rester chez soi, et quelles sont les conditions qui sont propices pour travailler dans de bonnes conditions, dans un cadre d'entreprise.
En ce qui concerne ces réunions, justement, de l'organisation de ces réunions, qu'est-ce que vous préconisez, Jérémy Clauss, pour les collaborateurs de Louis et tous ceux qui se réunissent comme ça? Et c'est vrai que ça peut durer des heures, quoi.
Alors, tout ce qui est, si on reste sur le distanciel, sur le télétravail, le premier, c'est déjà, un, d'être très clair sur l'objectif de la réunion, ce qui est déjà une difficulté en soi, hein. La deuxième, c'est de le partager très explicitement au début de la réunion avec tous les participants. Et la troisième, c'est dès qu'on constate une dérive par rapport à cet objectif, c'est de le partager avec le reste du groupe pour dire, écoutez, voilà, on était parti sur tel objectif, là, on est en train de parler d'autres sujets, est-ce que c'est le moment pour ça ? Si oui, continuons, mais au moins on le sait. Si ce n'est pas le cas, revenons sur notre objectif et on calera une réunion ultérieure par rapport à l'objectif qu'on est en train de traiter. D'accord. Mais il y a un vrai niveau de vigilance à développer en distanciel pour essayer de rester le plus longtemps possible par rapport à l'objectif et qu'il soit connu de tous.
Ouais. Alors, c'est structuré, donc, ces réunions. De la même façon, dans ce que disait Louis, Louis, est-ce que vous aviez l'impression plus de structurer vos journées ou de les subir ?
C'est une bonne question.
Est-ce que vous aviez un rétro-planning, aujourd'hui je fais ça, ou vous étiez finalement ballotté par les informations qui vous parvenaient et les réunions qu'il fallait faire?
On essaye quand même d'avoir toujours le contrôle sur sa journée, de savoir où on va et ce qu'on veut faire. Après, c'est sûr qu'il y a des imprévus qui peuvent nous chambouler
Plus souvent dans le télétravail ou pas plus souvent?
Non, pas forcément plus souvent dans le télétravail. J'ai pas, en tout cas, moi, à mon niveau, je n'ai pas remarqué trop de changements à ce niveau-là.
Jérémy, vous parliez de structurer, donc voilà.
Je me permets juste de compléter, ouais. Parce qu'il y a un terme qui est intéressant dans ce que dit Louis, qui est contrôler sa journée. Ouais. Et en fait, on voit bien dans ce qu'il présente, il y a, je dirais, assez sommairement, le temps des réunions et après, le temps de production. Donc, en fait, les réunions imposées pendant la période de confinement, qui est, on est dans ce besoin de formaliser ces temps d'échange, qui est extrêmement chronophage, et finalement, on attaque notre journée à partir de 17h. Mmh. Et c'est là où, en tout cas, moi, quand j'ai discuté avec pas mal de mes clientes sur ce déroulé qui est assez commun, je dirais, pendant la période de confinement, la question était de dire, est-ce que c'est tenable en termes d'énergie et de fatigue ? Parce que ça fait effectivement des journées à rallonge. Et deuxièmement, dans quelle mesure je priorise mon temps ? Et dans quelle mesure j'accepte de déléguer finalement peut-être certaines réunions à d'autres auxquelles je n'assiste pas pour pouvoir me dégager du temps et rester dans cette logique de production au cours de ma journée, mais pas se laisser déborder en disant finalement je contrôle ma journée et donc au détriment de ma sphère sociale ou familiale en disant voilà, au lieu d'avoir 10 heures de temps travaillé, j'en ai 15. Mais c'est un mauvais calcul parce que derrière ça a une incidence en termes de fatigue et d'équilibre de vie.
Et pour répondre à votre question, Elena, je complète, du coup, ça m'a fait penser à ça. Les tâches de ballotage, comme vous avez dit, qui me viennent dans la journée, généralement, ce sont des tâches que je fais, du coup, pendant les réunions.
Ah, c'est-à-dire que pendant les réunions, vous faites des gribouillis sur votre feuille?
Sur mon PowerPoint, mais ouais, je fais des gribouillis, ouais.
Et ouais, là, je me permets juste d'enfoncer le clou, mais c'est très intéressant. Effectivement, généralement, donc pendant cette période de confinement, ce qu'on a pu constater, c'est que les réunions, qui étaient donc extrêmement chronophages, étaient un lieu soit de récupération, où les gens faisaient autre chose, soit de productivité, où les gens bossaient sur ce qu'ils avaient à faire parce qu'ils ne voulaient pas le faire à 22h.
Ah ouais.
Et donc, ce qui démontre bien le fait que ces réunions n'étaient pas forcément pertinentes de bout en bout.
Est-ce que, je m'adresse à Louis, est-ce que vous avez eu des manques, par exemple, en matière de socialisation ? Est-ce que les autres vous ont manqué pour avancer dans votre travail ? Ou au contraire, le fait qu'il n'y ait personne autour de vous, ça vous a permis d'être plus concentré ?
En termes de concentration personnelle, ça m'a permis justement d'être plus concentré sur mon travail, parce que moins dérangé par des personnes qui veulent passer dans le bureau ou je ne sais quoi.
Ouais.
Donc en termes de concentration, j'ai pas eu de soucis, au contraire, c'était plus bénéfique.
Et puis par rapport à la sociabilité, le fait d'être entouré, tout ça, ça n'a pas été un manque pour vous ?
Ça a été un manque. Je pense qu'il y a un équilibre. La conclusion que j'en fais, moi, du télétravail, c'est qu'il y a un équilibre à avoir entre les jours de télétravail et les jours de présence. Parce que je pense que ce niveau de sociabilité où tout le monde doit être présent, c'est important quand même. Que le rythme, je pense qu'il dépendra de chaque équipe, chaque projet, mais je pense qu'il est effectivement important d'avoir au moins un moment où on se réunit entre collaborateurs.
Eh ben, on va aller dans ce sens-là tout à l'heure avec Jérémy, mais parce que je sais que vous devez retourner au travail justement, Louis.
Ouais.
Est-ce que vous êtes retourné au travail en présentiel depuis et comment ça s'est passé ?
Je suis retourné en présentiel. J'y vais une fois par semaine. Comment ça se passe? Bah, tout le monde n'est pas là, donc au final, ça ne change pas grand-chose. Mes réunions sont. J'ai toujours pas fait une seule réunion en
Ah ouais.
présentiel.
Ah ouais. Ah ouais. Est-ce que vous aimeriez poursuivre le télétravail?
Au rythme sur lequel je viens de vous dire, avec certains jours de présence de réunions groupées globales. Mais sinon, je trouve que le télétravail, pour moi, c'est quelque chose de très bien et qui aura, je suis sûr, plein de bénéfices quand on aura bien décelé,
Ouais.
bien réglé son organisation.
Et ben vous allez écouter jusqu'à la fin parce que Jérémy va nous donner quelques clés. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous feriez autrement, Louis?
Au niveau de quoi?
Dans votre organisation du télétravail, pour que ce soit mieux organisé, que vous ayez moins à pâtir, par exemple, de ces réunions où vous disiez manquer de spontanéité. Qu'est-ce que vous...
Je vais prendre un petit
Ah, merci Jérémy Clos, alors.
déj.
Jérémy, dans tout ce que vient de dire Louis, il y en a pas mal, mais avant les infos, on peut peut-être essayer de débriefer ensemble.
Alors, dans ce qui est partagé, enfin, je vais rebondir notamment sur ce que disait Louis à la fin, qui me paraît fondamental, entre le télétravail et le présentiel, ça dépend de chaque projet. Ça dépend du rythme, ça dépend des tâches à réaliser. Et donc, effectivement, dans ce qu'il dit, bon, déjà, vous l'avez compris, c'est l'histoire du petit-déj, mais c'est vrai, c'est quand on est en télétravail, il faut qu'on s'inscrive dans un rythme et un rituel dans lequel on ne se laisse pas déborder. Autrement dit, il y a une tendance naturelle à être hyper connecté, à se laisser happer par des réunions qui sont en fait, je dirais, des temps qui viennent combler le déficit du présentiel, donc qui vont être extrêmement chronophages en disant bah, il faut qu'on ait ces temps ensemble, mais où finalement ce qu'on fait, c'est on est en train de travailler sur ce sur quoi on doit produire pour la suite, on n'est pas du tout dans la réunion, ou bien on utilise la réunion comme un temps de déconnexion. Donc, comment avoir un agenda en télétravail qui soit réellement performant? Et donc, ça pose sincèrement la question de dire bah, quand est-ce que le télétravail va être adapté et quand est-ce qu'il le fera moins? Et ce que disait Louise tout à l'heure, et c'est très intéressant, c'est de dire bah, voilà, en termes de concentration, je suis moins dérangé. Donc, on peut déjà formuler une première conclusion qui est le télétravail sera performant quand on a besoin d'avoir ce temps de concentration dans sa bulle, quand on n'est pas en interaction avec les autres. Là, effectivement, ce sera un temps qui sera probablement beaucoup plus efficace. En revanche, dans tous les temps d'interaction, d'échange, de proximité, de motivation, d'apprentissage social, là, ce sera fondamental de rester dans cette proximité avec les autres dans un temps en présentiel.
Merci beaucoup, Louis, pour votre témoignage. Nous, on va poursuivre notre débriefing du télétravail post-confinement pour améliorer justement ce travail à distance qui concerne 5 millions de télétravailleurs, hein, en tout cas, c'était le nom pendant le confinement. Une révolution, vous le disiez, dans le monde du travail. On en parle donc avec Jérémy Clos, coach en management. Vous avez aimé un peu, beaucoup, vraiment, ou pas du tout le travail à distance. Eh bien, dites-nous pourquoi en nous contactant sur la page Facebook de la French Radio ou directement par mail à helena@lafrenchradio.pt. Et on se retrouve après les infos, hein, Thierry. On sera avec Florence qui a détesté le télétravail.
Absolument, Elena, quelle précision! Il est exactement 11h30 minutes. Bravo, on voit la vraie professionnelle que vous êtes. Alors, comme ça, après, on va voir quelqu'un qui a détesté le télétravail. Bah, écoutez, j'ai hâte d'entendre ça parce que finalement, moi, je trouve que c'est pas si mal que ça. Voilà, ça permet de justement, je trouve qu'il y a une très très belle. Bon. Moi, je dois dire surtout qu'on a eu beaucoup de chance quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a des super outils pour nous permettre de le faire. Il y a quelques années,
Ben
ça
c'est
aurait
ce qu'on
été.
fait aujourd'hui, hein.
Voilà, exactement. Mais il y a quelques années, je préfère ne pas y penser. Donc, et je me dis que. Non, mais en plus, même au niveau radio et télé, ça a changé beaucoup de choses parce que beaucoup de nouveaux systèmes se sont mis en place justement au niveau des radios. Allez, c'est l'heure des infos. On retrouve tout de suite Vincent Barros et on se retrouve après avec vous, Elena, et vos invités.
La French Radio Info Portugal. Vincent Barros.
Bonjour à tous. L'immigration en nette hausse au Portugal. Le pays a enregistré l'an passé 130 000 nouveaux résidents étrangers. Au total, près de 600 000 immigrés vivent sur le sol portugais, a annoncé hier la police des frontières dans son rapport annuel. La population étrangère résidente vient donc de battre un record et cela s'explique par la forte hausse du nombre de Britanniques, 34 000, troisième contingent derrière les Brésiliens, 150 000, et les Capverdiens, 37 000. Les Français dépassés par les Italiens sont tombés à la 8e position en dépit d'une hausse de près de 23% avec 23 000 expatriés. Les cas positifs au coronavirus repartent à la hausse au Portugal. 345 ont été détectés ces dernières 24 heures, dont 87% dans la région de Lisbonne et de la vallée du Tage. Le nombre total de personnes infectées s'élève désormais à près de 40 000. C'est 11 000 de plus depuis le début du déconfinement. 6 nouveaux décès ont été recensés hier, les 6 encore une fois dans la région de Lisbonne. Le nombre de morts depuis le début de la pandémie au Portugal s'élève à 1540, ce qui donne donc un taux de létalité du virus de 3,9% alors que la moyenne mondiale est de 5,5%. Le Diario de Noticias annonçant ce matin qu'aucun cas n'a été détecté depuis 16 jours dans la ville de Porto. Et pourtant, les festivités de la Saint-Jean aujourd'hui sont bel et bien annulées. Un crève-cœur pour tous les habitants de la seconde ville du pays. Et sur l'ensemble du territoire portugais, la résurgence du coronavirus a évidemment des conséquences sur la scène internationale. Le Royaume-Uni, qui souhaitait mettre en place un couloir touristique avec le Portugal, songe désormais à l'exclure de sa liste des pays sûrs. La raison, la hausse des cas positifs en Algarve, où vit une importante communauté d'anglais, notamment à cause d'une fête illégale organisée à Lagos et lors de laquelle plus de 110 personnes ont attrapé le Covid-19, dont 19 enfants de moins de 9 ans. Le Royaume-Uni envisage désormais de placer en quarantaine toutes les personnes qui arrivent sur son sol en provenance du Portugal. Une telle mesure serait une catastrophe pour l'économie de l'Algarve. André Ventura se démarque de Mario Machado, le leader du parti Chega, un mini-parti populiste de droite qui monte dans les sondages, explique au journal Expresso qu'il n'a rien à voir avec Machado, un leader d'extrême droite condamné à 12 ans de prison pour incitation à la haine et complicité dans un meurtre raciste. André Ventura dit vouloir se tenir à l'écart de, je cite, « tous les mouvements violents ou subversifs qui ne respectent pas la démocratie ». Samedi après-midi, lui et son parti Chega organisent une manifestation à Lisbonne, le slogan « Le Portugal n'est pas raciste », une manifestation à laquelle souhaite se joindre le skinhead Mario Machado, qui a appelé les siens à ne pas faire de salut nazi lors de l'événement pour ne pas créer de désordre. En football, le FC Porto a repris la tête de la Liga NOS hier soir. Les Dragons ont écrasé 4-0 Boavista lors du derby. Ils comptent désormais 67 points. C'est 3 de plus que leur grand rival Benfica, qui s'est incliné 4-3 à domicile contre le modeste club de Santa Clara hier soir. Ce soir, deux autres matchs sont au programme de cette 28e journée de championnat. Tondela Passos de Ferreira et Moreirense Famalicão. La météo enfin, aujourd'hui le temps change légèrement, avec un ciel un peu plus nuageux sur la moitié nord du pays. Le quart nord-est reste en alerte jaune en raison des températures très élevées. De grosses averses sont toutefois attendues dans les conseils de Bragança et de Guarda. Quant à la moitié sud, le temps sera parfaitement ensoleillé. Côté température donc, elles vont grimper cet après-midi jusqu'à 36 degrés dans l'intérieur du pays, à Évora ou à Castelo Branco. Ailleurs, il fera 30 à Braga, 20 à Porto, 26 à Coimbra, 28 à Lisbonne et enfin dans le sud, 27 à Sagrèche et 30 à Faro. Une très bonne journée à tous.
Vous écoutez la French Radio.
Merci beaucoup. Voilà, c'était les informations de Vincent Barros. On se retrouve tout de suite avec Elena, Elena Morna et ses invités. On parle télétravail. Je ferai juste une aparté. Elena, on vous attend quand même au Portugal, hein, parce que vous avez vu, il va falloir renforcer un petit peu les...
Vendredi,
voilà. Parce qu'il va falloir quand même qu'il y ait plus de Français. Vous avez vu, on a perdu un petit peu de place. Hein. Il y a moins de Français que... Bah, les Britanniques sont toujours leaders, mais on a quelques pays qui sont passés devant nous ces derniers temps. Alors, il va falloir quand même que vous fassiez cette démarche. Bon, allez.
Moi, j'ai une question à poser, Elena. Est-ce que pour aller à son télétravail, on prend un vélo d'appartement?
Ah bah c'est peut-être pas plus mal, on va en parler à Jérémy, un petit moment de vélo d'appartement avant de se mettre devant l'ordinateur. Bah, c'est une très bonne question.
Ça permet d'aller au télétravail en vélo?
Non, mais faire un peu d'exercice physique peut-être avant ou à la pause déjeuner. L'exercice physique, on n'en parle pas, mais c'est vrai qu'on en fait peut-être un peu moins quand on télétravaille et pourtant c'est essentiel, Jérémy Clauss.
Alors tout à fait, alors je vais le dire en deux temps, en période de confinement c'est indispensable. En période de télétravail, c'est nécessaire si on n'a pas ce temps-là par ailleurs. Voilà. Le télétravail, en fait, hein, s'il est considéré comme, je dirais, le temps productif en entreprise classique, on est derrière son bureau, on travaille, et en fin de journée, on va à la salle de sport, on va faire son footing, etc., comme on le ferait finalement en allant travailler sur son lieu de travail habituel.
Moi, j'ai une question à vous poser, coach. Pourquoi vous pensez qu'il faut avoir les mêmes cérémoniaux, comme vous parliez du petit déjeuner, dans le cadre du télétravail que dans le cadre du pas du télétravail? Pourquoi, justement, étant donné que c'est différent, on pourrait pas avoir des
au dîner directement.
Des rites différents. Oui, par exemple, on commence par dîner à 7 heures.
Bah oui.
Ça, on se sent mieux.
Pourquoi pas, après tout.
Bah, ce qui est important, c'est pas forcément d'avoir les mêmes rituels, c'est d'avoir des rituels qui permettent de rester durable. Autrement dit, qu'au cours de sa journée, on ait des temps de récupération. Le risque du télétravail, c'est qu'en fait, comme c'est une nouveauté, on n'a pas encore de normes de fonctionnement, on n'a pas encore d'habitude, et donc on a une tendance à se laisser happer par les sollicitations, notamment les réunions chronophages, etc.
Les réunions, si vous occupez déjà... Enfin, les 80% des réunions ne servent à rien, on est bien d'accord dans les entreprises. Elles servent juste à faire l'appel, quoi. Enfin,
ça dépend des entreprises et ça dépend des managers.
Une réunion où il y a plus de 3 participants et qui dure plus de 30 minutes, en général, ça débouche sur rien.
Ben, ça dépend de l'objectif de la réunion. Si c'est une réunion d'information et que l'objectif est de descendre de l'information, on ne demande pas forcément aux gens de participer. Par contre, si c'est une réunion de partage et qu'effectivement, il y en a 3 sur 10 qui participent, là, c'est un échec en termes de produit.
Ben, en général, c'est ça quand même dans l'entreprise. C'est ce qu'on voit quand même, non?
Alors non, moi, je suis plus nuancé, plus modéré, je vois tout.
Mais il y a longtemps que plus personne veut de moi dans les entreprises. Hein, donc, c'est des souvenirs un peu lointains, mais... Moi, il y avait deux types de personnes dans les réunions, ceux qui étaient responsables du projet, qui font le boulot, et puis ceux qui en ont un peu rien à faire, qui dorment, répondent à leur SMS ou jouent à un jeu électronique, quoi.
Alors, bah, écoutez, moi, en tout cas, les personnes que je côtoie, les entreprises avec lesquelles je travaille, sont plutôt dans une logique de productivité dans ces temps de réunion, et justement, mettent un point d'honneur à avoir un objectif clair, ce que je disais tout à l'heure, pour que effectivement les gens qui soient présents apportent réellement de la valeur ajoutée.
Et moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse une émission sur les réunions qui serait animée par Jean-Guillaume.
Et à ce moment-là, on n'a qu'à faire une réunion pour en parler avant.
Oui, on fait une réunion pour en parler avant. Allez, on revient sur le travail, mode d'emploi, le télétravail, avec Jérémy Clauss, coach en management. On tire les leçons du télétravail et avec Jean-Guillaume, qui n'a pas vraiment aimé les réunions.
Non, j'ai pas saisi l'efficacité des réunions.
On va reparler. En tout cas, on tire le leçon de ce télétravail improvisé pendant le confinement. Comment ça s'est passé pour vous derrière votre radio ou derrière votre écran? Vos questions, vos réactions sur les réseaux sociaux de la French Radio ou alors par mail à helena@lafrenchradio.pt. Je voulais juste qu'on revienne sur Florence, qu'on devait avoir au téléphone. Elle nous a écrit sur la page Facebook pour témoigner, mais elle a un problème, elle est dans le train. Alors elle, visiblement, elle fait partie des 50% de télétravailleurs qui sont ravis de revenir au bureau. Ce qui a été compliqué, nous dit-elle, c'est de donner du sens à mon travail. Pendant le confinement, j'avais l'impression que mon boulot ne servait pas à grand-chose. Quand on est seul, on a du mal à mettre son travail en perspective. Pas facile non plus de supporter des heures de visioconférence. À mon avis, c'est la copine de Jean-Guillaume. On n'a plus d'interaction avec les collaborateurs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi avec Louis. Bref, je suis trop contente de revenir au bureau, de prendre le café avec mes copines et mes copains, de retrouver plus de spontanéité dans nos échanges, ce que ne permet pas, vous le disiez tout à l'heure, la visioconférence. Jérémy, là, il y a pas mal de choses sur lesquelles on a déjà parlé, mais le sentiment que son travail ne sert à rien, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les messages des auditeurs. Vous l'expliquez comment ?
Alors en fait, dans ce qui a été mis en place dans le télétravail pendant la période de confinement, c'est qu'effectivement, chacun cherchait à réaliser sa tâche sans avoir cette vue d'ensemble qu'on peut avoir en étant dans le monde de l'entreprise, en côtoyant ses collègues au fil de la journée. Et donc en fait, on a cette perte de visibilité de finalement ce que je suis en train de faire, plus globalement à quoi est-ce que ça sert. Et deuxièmement, avec ce qu'évoquait Louis également, sur ce temps très chronophage de réunion, puisqu'on n'a plus de temps informel dans l'entreprise, où on a l'impression de perdre du temps, d'une part, et de ne pas comprendre le temps productif, à quoi est-ce qu'il sert fondamentalement. Donc en fait, on a vraiment cette perte de sens profonde, enfin que je comprends très bien dans ce que dit Florence, qui est, je réalise une tâche, mais je ne sais pas pourquoi je le fais.
Et Jean-Guillaume, vous savez toujours ce que vous faites, même si vous êtes en télétravail, vous mettez toujours en perspective.
Moi, en fait, c'est peut-être qu'on peut expliquer ma désertion des grandes entreprises multinationales dans lesquelles j'ai sévi au début de ma carrière par le fait que l'efficacité n'est pas le point le plus important dans les organisations. Le plus important dans les grandes organisations, c'est l'organisation. Et moi, je comprends extrêmement bien ce que dit cette dame à propos du télétravail. C'est que le problème est, à mon avis, plus profond. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent parce qu'ils ont un loyer à payer et qui n'ont ni grand intérêt, ni on n'a peut-être pas suscité beaucoup d'intérêt dans leur tâche et dans l'explication de leur tâche dans l'océan des tâches d'une grande entreprise. Et puis, vous savez quoi ? Je pense que ça rejoint quelque chose, une espèce de crise générale de nos sociétés, c'est qu'on ne sait plus rien faire. C'est-à-dire qu'il y a 80 ans, un paysan fabriquait ses outils, fabriquait ses paniers, il fabriquait tout. Il y a un ébéniste, le premier truc qu'on faisait faire à un ébéniste, c'est de fabriquer son rabot. Et on ne sait plus rien faire aujourd'hui. On ne sait plus rien faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça embête de ne plus savoir rien faire. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit beaucoup revenir, les travaux manuels, le tricot, la couture, etc. Parce que les gens ont besoin quand même de... Il y a quand même un truc qui est quand même hyper satisfaisant, c'est quand vous balayez un endroit qui est sale, à chaque fois que vous donnez un coup de balai, vous voyez que la poussière s'en va. Et ça, c'est très satisfaisant. Et quand on travaille dans une multinationale, on ne voit pas forcément... l'efficacité voilà, de son travail, je pense.
Quand on est le petit échelon, effectivement, d'une grande entreprise...
Même à des échelons dits élevés, hein, c'est tellement diffus, tout ça. Puis ça...
Alors, je me permets juste de compléter sur ce point pour notamment revenir sur la notion du télétravail. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, dans une phase de télétravail, on s'appuie sur la responsabilité et l'autonomie des personnes. Ouais. Et qu'effectivement, il y en a qui, s'ils n'ont plus de sens, hein, se retrouvent autonomes et seuls. Et donc là, il y a un vrai phénomène de solitude où, en fonction de la performance managériale qui est au-dessus, à donner ce sens ou pas régulièrement à distance, en tout cas, c'est un vrai risque en télétravail d'être dans cette perte de sens.
Il y a des gens qui travaillent pour leurs collègues, en fait. Et s'ils ne voient plus leurs collègues, ils ont l'impression de ne plus travailler pour rien.
Tout à fait.
C'est pour ça que c'est important de respecter, et ça on en a parlé aussi avec Louis, une période en télétravail, mais de toujours, et quelle fréquence serait la bonne d'ailleurs d'être en présentiel également ?
Alors, donc, on est d'accord, je pense, pour effectivement faire le constat, pour dire que les deux sont importants. L'équilibre, pour moi, dépend réellement de la tâche, des tâches à réaliser, de l'autonomie de la personne et de sa capacité à travailler dans une bulle ou pas, de son besoin de sociabilisation, des conditions de travail dans lesquelles il va être. Autrement dit, je dis n'importe quoi, là, il va faire particulièrement chaud cette semaine en France. Bon, ben moi, j'ai peut-être intérêt plutôt à aller au boulot parce qu'il y a la clim.
Ouais.
Vous voyez, enfin, donc, dans quelle mesure j'ai cette conscience-là ? Et dernier élément, qui dépend aussi de mon niveau de fatigue. Donc, par exemple, si je dois me rendre chez un client et avoir 2 heures de transport, bah, peut-être que je vais privilégier le télétravail parce que je suis fatigué. Et donc, vous voyez, c'est à toutes ces conditions-là qu'on peut se poser la question de dire, bah, finalement, dans ma semaine, quand est-ce que le télétravail sera performant et quand est-ce que le présentiel sera performant ?
Est-ce que le télétravail est admis aussi par les clients ? J'entends par là, est-ce qu'on a des commerciaux qui font leur rendez-vous en télétravail ?
Alors, c'est
la base du volontariat aussi que ça doit se passer, quoi.
Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, avec la période de confinement, on a été contraint d'utiliser le télétravail hein, pour communiquer et continuer de travailler. Donc, à travers cette contrainte, on a commencé à construire un mode de fonctionnement que les gens commencent à traduire en expérience. Avant, ils pouvaient l'appréhender en termes de concept, mais ils n'avaient jamais finalement télétravaillé. Là, ils ont télétravaillé pendant une durée qui était significative dans laquelle ils se sont créés une expérience. Et donc, effectivement, il y a des commerciaux, par exemple, qui aujourd'hui continuent d'entretenir des relations en distanciel avec leurs clients, et ça fonctionne parce qu'ils l'ont inscrit pendant ces dernières semaines.
Ouais.
Donc, je dirais qu'on a profité de cette période de confinement pour commencer à initier la mise en place de télétravail.
Et est-ce qu'on verra bientôt des commerciaux qui vont démarrer dès le début en télétravail et qui ne verront jamais un client, j'exagère un petit peu, mais verront.
On peut l'imaginer.
Moins de clients.
On peut l'imaginer. Moi, par rapport à mes clients, là, pendant la période de confinement, il y a 8 personnes avec qui j'ai commencé à créer une relation et avec lesquelles on a commencé à travailler. Et en fait,
des gens que vous avez démarchés à distance.
Alors, il se trouve qu'ils m'ont contacté, mais effectivement, on a fait connaissance à distance, à travers Zoom, en l'occurrence, et donc on a commencé à travailler comme ça, et donc ça fait plusieurs semaines qu'on travaille uniquement en distanciel.
Alors, je voulais revenir sur les conditions dont vous parliez tout à l'heure, parce qu'on a reçu, j'ai reçu sur Elena@lafrenchradio.pt le mail de Jean-François. Jean-François, il est formateur pour adultes et il nous dit le télétravail, c'est plus facile pour ceux qui ont de l'espace dans leur appartement. J'habite en 2 pièces avec ma femme et mon fils de 4 ans. Tous les matins, mes clients ont pu assister à la danse de doudou de mon fils. Je trouve que c'est la limite du télétravail qui nous oblige à laisser une porte ouverte sur notre intimité. Jérémy, ça c'est quand même important. Comment est-ce que le télétravailleur peut faire respecter son intimité? Voilà, en l'occurrence, quand on habite un 2 pièces et qu'on a la danse du doudou à 9h30 du matin, elle est là, la danse du doudou, quoi.
Alors ça, je pense que beaucoup, ça va résonner avec beaucoup de personnes. Hein. Je pense qu'on l'a vécu ou on l'a vu dans pas mal d'interactions en télétravail.
On pourrait la voir là, à la French Radio avec les doudous de Thierry Burtin.
Sachez que les doudous de Thierry Burtin font du 95D et...
Non, je ne parle pas de cela. Alors, allez, on revient.
Mais il est en pleine forme. Hein. Le télétravail, je pense, confinement n'est pas toujours très bon. Hein. Vous noterez. Hein.
La danse du doudou et l'intimité, Jérémy.
Donc, effectivement, il y a ce point fondamental hein, qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure avec Louis et que Jean-François souligne, qui est cette confusion entre l'espace professionnel et personnel. Et donc, quand notamment je télétravaille, ça veut dire que je suis en train de ramener ma sphère professionnelle dans mon univers familial. Ouais. Donc ça, déjà, il va falloir que je l'explique à ma cellule familiale, que ce soit ma femme ou mes enfants. Et c'est vraiment fondamental de partager ce cadre-là avec eux pour qu'ils comprennent que quand je suis présent à la maison, c'est pas que je suis disponible, c'est que je suis en train de travailler.
Un enfant de 3 ans, c'est compliqué.
Alors, ouais. Là, c'est là où il y a différentes tranches d'âge. En tout cas, c'est un premier levier. Le deuxième, c'est idéalement, et donc là, manifestement, c'est pas le cas, Jean-François, c'est d'avoir un espace dédié. Okay. Et troisième alternative, s'il est en couple, c'est effectivement pendant les réunions dans lesquelles il a besoin d'interagir et d'être concentré dans un rôle de représentation, qu'il voit avec sa femme comment ils échelonnent au cours de la journée la prise en charge, notamment des enfants. Et dernière possibilité, si rien de tout ça est possible, il y a le doudou qui danse devant l'écran et ça fait rire les interlocuteurs et c'est pas grave, ça fait partie du jeu et c'est accepté. Voilà.
Voilà. Est-ce qu'on a vaguement entendu parler dans les solutions d'une éventuelle prise en charge à l'avenir d'une partie du loyer pour maintenir les travailleurs chez eux? Est-ce que ça peut être envisageable? En tous les cas, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne solution? Je ne sais pas comment ça peut être mis en place, mais voilà, prendre plutôt que de payer les transports des travailleurs, prendre alors en dehors du confinement, il y a quand même des espaces de télétravail qui vont se développer de plus en plus pour régler ce problème, mais ça c'est difficilement envisageable, cette prime qu'on pourrait donner à ceux qui ont besoin d'un espace supplémentaire.
Ouais, ça j'y crois peu. Alors d'une part, et je rebondis sur ce que vous dites par rapport aux espaces de travail, parce que c'est une discussion que j'avais eue la semaine dernière avec un de mes interlocuteurs. Effectivement, ils sont en train de repenser leur espace de travail. Donc de créer des espaces en fait dans lesquels il y aurait plus de bureaux, mais plus des espaces de coworking, et des gens viendraient finalement en fonction du télétravail ou du présentiel et du besoin d'interagir avec les autres. Donc déjà, ils sont en train de repenser le modèle même de l'organisation de l'entreprise d'un point de vue physique. Deuxième point, alors avoir une contrepartie par rapport au loyer, moi spontanément je trouverais ça plus efficace de mettre en avant la partie motivationnelle, de dire vous êtes chez vous, ce qui vous fait gagner du temps de transport, enfin il y a pas mal de bénéfices en contrepartie qui ne se quantifient pas d'un point de vue rémunération, je suis d'accord, mais justement qui permet d'avoir un équilibre de vie qui est peut-être plus satisfaisant. Et c'est probablement ça, moi, que je mettrais comme bénéfice principal du télétravail, plutôt que de dire, en contrepartie, si vous télétravaillez, on vous paye une partie de votre loyer. Il y a quelque chose qui déséquilibrerait un petit peu la pertinence du télétravail.
En tous les cas, le patron a des obligations de mettre à disposition de son télétravailleur tout ce qui lui permet de télétravailler dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, on parle quand même de bien-être au travail à la maison.
Et c'est pour ça que, en tout cas, certains se posent la question de repenser leur espace de travail dans le monde de l'entreprise pour que les gens, quand ils viennent, effectivement, soient dans de bonnes conditions. Et donc, demain, si on n'a plus la contrainte du confinement, charge aux salariés de choisir s'il veut rester chez lui dans de bonnes conditions. Et c'est là où je reviens sur s'il y a mon doudou qui danse à toutes les conférences, ça ne va pas être possible, donc je le sais. Et à ce moment-là, je vais sur mon lieu de travail dans de bonnes conditions pour pouvoir être performant. Et c'est là où je reviens sur les conditions d'organisation, de dire à moi de choisir finalement entre télétravail ou présentiel, si je vais dans le monde de l'entreprise ou si je reste chez moi, sachant que dans les deux cas, je dois pouvoir être concentré et productif.
Alors, il y a Nathalie aussi qui nous a écrit, qui a bondi. Alors, je ne sais pas si elle était là en début d'émission, parce qu'on en a parlé avec Louis, je crois, qui nous dit pour les téléconférences ou réunions en visio, c'est vrai qu'on est beaucoup moins spontané, on parle chacun son tour, sans interaction possible. Comment rendre les relations plus vivantes, y mettre un peu d'émotion. Donc, on a abordé ça tout à l'heure avec. Avec Louis, on peut le redire, voilà, est-ce qu'on dit au début de la réunion, voilà comment ça se passe, chacun respecte le temps de parole des autres, et effectivement, il y a moins de spontanéité, c'est moins productif, moins créatif, je ne sais pas.
Exactement, enfin, moi je pense que ce qui est fondamental, c'est de comprendre que le télétravail, en tout cas les réunions en télétravail, n'ont pas vocation à être un temps de partage, c'est un temps d'échange d'informations. Donc c'est descendant, et effectivement ça ne favorise pas le temps de partage et d'échange. Si on est dans du partage et de l'échange, à ce moment-là le présentiel sera privilégié, et ouais. On voit bien notamment avec Zoom, etc., enfin, parce que des clients m'en ont parlé, donc la tête de la personne qui parle apparaît, donc déjà ce qui permet aux autres de se mettre en retrait et de faire autre chose, et deuxièmement c'est très désagréable de voir défiler les visages finalement très rapidement en fonction des personnes qui parlent. Donc c'est pas un canal qui est propice pour l'instant à vraiment être dans la co-construction et le collaboratif.
Alors un autre témoignage qui est assez alarmant, il me semble, c'est celui de Vincent sur elena@lafrenchradio.pt. Je travaille dans le service RH d'un réseau bancaire français installé au Portugal. Pour moi, le télétravail a été source de stress et de surmenage. Impossible de dissocier la vie pro de la vie perso. Les heures et les heures de visioconférence m'ont dominé la migraine à chaque fin de journée. En plus, je ne sais pas si ce sont les effets du confinement ou du télétravail, mais aujourd'hui, je me sens accablée. Je ne donne plus de sens à ce que je fais. Ah ben ça, c'est presque comme ce que disait Jean-Guillaume tout à l'heure. Et je n'ai finalement aucune envie de retourner au travail, comme si j'étais clouée au lit sans force. Alors là, je crois qu'on a quelques symptômes du burn-out. Out, mais bon, Vincent n'est pas avec nous. Voilà. Est-ce que c'est le confinement, est-ce que c'est le télétravail, je ne sais pas. Mais est-ce que les deux peuvent être liés, Jérémy?
En tout cas, bien sûr. Si le télétravail n'a pas de cadre, on va rentrer dans ce que tous les auditeurs sont en train de partager, hein, Nathalie, Jean-François, Florence, etc. On va être dans une logique de surmenage. On va être happé finalement par des réunions extrêmement chronophages avec cette obligation de produire quand même à partir de 17h et jusqu'à pas d'heure, et c'est un vrai risque. Et donc à la fin de la période de confinement, moi je sais que j'ai beaucoup de mes interlocuteurs qui sont vidés, qui sont usés, ouais, parce qu'en fait ils sont laissés déborder, parce qu'il n'y a pas eu de cadre qui a été construit au départ sur comment est-ce qu'on va télétravailler. Et c'est là où pour moi c'est une véritable expérience ce qu'on a vécu pour maintenant commencer à le structurer. Pour dire,
alors, bah, quand vous avez débriefé là, quels sont justement les points forts, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Vous avez dit tout à l'heure en début d'émission que ça vous a permis de débriefer le fait qu'on ait improvisé. Et au cours de ce débrief, qu'est-ce que vous avez mis en avant pour améliorer et pour éviter les écueils justement?
Alors donc ce que je disais, c'est déjà de faire la part des choses pour dire quand est-ce que le télétravail présentiel va être performant. Et donc enfin je peux vous donner ma petite liste. Moi je me suis dit tiens donc c'est évidemment non exhaustif, hein, mais donc le télétravail, je me disais, c'est performant quand on est dans un rôle de conception, de coordination de projet, de suivi de planning, etc., de synthèse d'informations, de rédaction de contenu ou de recherche d'idées seul. Je suis dans ma bulle et je cherche à m'alimenter. Donc, pour tout ça, le télétravail va être extrêmement performant. Le présentiel, ce sera performant pour faire du recrutement, pour faire du brainstorm, tout ce qui est stimulation collective, pour tout ce qui est cohésion, la fierté d'appartenance, le fait de fédérer le groupe, tout ce qui est informel, temps social, pour pérenniser le groupe, tout ce qui est gestion de crise, qui nécessite de la réactivité et de se passer de l'information rapidement, tout ce qui est rôle de représentation, et tout ce qui est évidemment construction, activité manuelle, dans lequel le présentiel est indispensable. Donc ça, je dirais que ce sont les grandes tâches. Ensuite, en termes de réunions, il va y avoir, ce que je disais, le télétravail qui sera privilégié pour les réunions descendantes, réunions d'information. Donc là, l'objectif est très clair, je vous donne de l'information. En revanche, en présentiel, ce sera tout ce qui sera réunion de partage d'information, de fonctionnement, de recadrage, de félicitations. Tout ça, c'est des temps qui se prêtent au présentiel et qui ne se prêtent pas au télétravail, puisqu'on l'a évoqué, on va être dans un temps extrêmement chronophage qui sera contre-performant.
Ouais, d'accord. Jean-Guillaume. Ah, Jean-Guillaume, on a perdu Jean-Guillaume. Alors, est-ce que vous êtes prêt pour retourner au télétravail ou
moi le télétravail, ouais, le télétravail en soi ne me pose pas de problème, mais j'ai une question, je vais vraiment être l'avocat du diable.
Ça change pas.
Ça concerne qui le télétravail? Quand je dis qui, quelle est la proportion de gens qui ne sont ni cuisiniers, ni cuisiniers? Donc c'est un quart de la population, un cinquième de la population active.
Mais oui. C'est quand même pas mal parce qu'on n'est pas fait. En fait, c'est ça, vous avez raison, c'est 25% de la population active. Ouais. L'étonnant, c'est le bond entre 3% avant le confinement, 25% aujourd'hui, et 50% de ces 25%, en fait, qui veulent maintenir le télétravail.
Je comprends, ils n'ont pas envie de tomber sur le collègue qui est complètement lourdingue, ils ne le voient plus. La collègue qui les ennuie depuis le début, mais ils ne la voient plus. Je pense qu'ils sont plus heureux. Hein. De travailler chez eux, à part ceux pour qui...
La moitié de ceux qui ont télétravaillé qui sont plus heureux chez eux, donc ouais. C'est pour ça que peut-être qu'il pourrait y en avoir davantage, et c'est pour ça que ce cas... Enfin, là, on s'est précipité, ça a été improvisé, c'est ce que disait Jérémy, et c'est vrai que poser un cadre permettrait peut-être de plus télétravailler et à bien des égards, avoir des avantages à la fois professionnels et personnels dans le cadre du travail à distance. Ouais, enfin,
après, il faut que ça soit un choix, je pense. C'est assez...
Non, mais je pense qu'aussi, il y a un élément quand même, c'est qu'on a moins de fatigue. Il ne faut quand même pas oublier quand même que des gens passent leur temps à voyager, ou du moins à se déplacer pour aller dans des réunions, pour aller dans leur bureau, que très souvent, quand on pense aux gens qui sont dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille et autres, ou même Lisbonne, et encore Lisbonne, ça va, on réussit à se déplacer facilement, mais le temps de transport qui est aujourd'hui,
cette empreinte carbone
qui est économisée, c'est un coût.
Assez bénéfique.
C'est un bénéfice, parce que le temps moyen, moi, à Paris, de mémoire, je crois que c'était une heure et demie par jour minimum de transport. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui font quasiment 2 heures à 2 heures et demie. En plus, ça va améliorer le cadre de vie des personnes, parce qu'aujourd'hui, grâce à ce télétravail, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus forcément résider
dans les
grandes villes, mais qui vont pouvoir vivre
la Nièvre, non, dans la Nièvre, pas, dans la Creuse.
Mais
ce qui est important, c'est qu'ils aillent vivre dans la Creuse ou dans la Nièvre.
Mais même à 50, 100 kilomètres des grandes villes, donc vivre beaucoup mieux dans des campagnes où ils ne se déplaceront qu'une fois pour une grande réunion sur Paris ou en tout cas sur la grande ville. Et donc, il va y avoir, je pense, un changement complet. Et d'un autre côté, c'est aussi très intéressant au niveau routier, parce que ça va quand même alléger quand on entend tous les jours entre 300 et 600 kilomètres de trafic permanent à Paris.
Et c'est surtout aussi que ça va complètement bouleverser le marché immobilier dans les campagnes.
Mais ce serait bien que les campagnes se repeuplent un peu, hein,
et
que les gens
puissent le permettre.
Habiter
mais
dans
comme
la Creuse.
Le disait, ou... Je voulais revenir sur ce que disait Jérémy, comme il le disait. Oui, on est moins fatigué, à condition qu'il y ait un cadre qui soit posé pour qu'on n'ait pas ce sentiment d'être complètement vidé en fin de journée quand on a improvisé, et c'est ce que vous disiez, Jérémy. Jérémy, est-ce que vous avez aimé télétravailler ?
Alors moi, personnellement, énormément, parce que ça a été l'occasion d'apprendre et de réfléchir justement à comment être performant dans ce nouveau cadre, et donc j'ai trouvé ça très stimulant.
Mais en tous les cas, c'est très sympa d'avoir partagé le fruit de vos réflexions sur le télétravail pendant le confinement. Nous aussi, on a bien aimé télétravailler, Thierry et Jean-Guillaume.
Ouais,
finalement,
ouais,
on a
réussi
à faire de belles choses.
Bah oui, la qualité est là. Hein. Le plus s'oublie, la qualité reste.
Bah sincèrement, moi j'adore ça. Hein. Franchement, je trouve qu'aujourd'hui, on y voit beaucoup d'avantages. Même pour nous, pour avoir des intervenants à la radio, il est beaucoup plus facile finalement d'avoir des gens qui interviennent par Zoom et qui puissent être un petit peu, enfin, n'importe où, de par la planète. Alors que sinon, il fallait qu'ils se déplacent en studio et donc les contraintes étaient beaucoup plus lourdes. Pourquoi ?
Moi, je débarrassez-moi de mes gosses pendant la journée, juste pour que je télétravaille tranquillement. Le télétravail plus les écoles fermées, ça c'est beaucoup. Là, ça fait beaucoup.
Ça, c'était pendant le confinement. Ouais. Ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que finalement, Jérémy nous disait qu'il avait eu de nouveaux clients à coacher, et c'est pas facile, mais vous avez pu travailler en télétravail avec ces nouveaux clients. J'ai envie de poser la question aux auditeurs, à votre avis, Jean-Guillaume et moi, on se connaît depuis combien de temps ? On a l'impression qu'on se connaît depuis longtemps, on ne s'est jamais vu. Et pourtant, c'est comme si on se connaissait déjà.
Ouais,
c'est pas vrai,
vous savez, les êtres d'exception ont tendance à se reconnaître tout de suite, Véléna.
Non, mais finalement, c'est vu qu'à travers les écrans. Bon, en tous les cas, merci beaucoup, Jérémy Clos, pour vos précieux conseils. Je rappelle que vous êtes coach en management, que vos coachés ont de la chance de vous avoir. Merci à tous nos auditeurs d'être de plus en plus nombreux à écouter la French Radio et réagir en direct sur notre antenne. Moi, je déconfine, je le répète, vendredi, et je débarque, Thierry et Jean-Guillaume, je débarque.
Je ne peux pas, j'ai un empêchement.
et vous nous ferez du télétravail de l'Algarve.
De la plage.
Depuis Tavira.
Depuis Tavira, voilà. Alors, je suis au bord de la plage et voilà. Soleil,
ouais,
pas soleil.
Et vous nous ferez surtout. Le nouveau scandale des plages d'Algarve. Je sais que beaucoup de gens au Portugal ne veulent pas qu'on en parle, mais l'agriculture, eh bien, ça apporte les algues vertes sur les plages et ça, c'est bien dommage.
Non, pas l'agriculture. Les mauvaises pratiques dans l'agriculture.
Les mauvaises pratiques dans l'agriculture, vous avez raison de me corriger, Jean-Guillaume.
Bon, en tout cas, merci, merci.
J'espère
à notre...
que vous nous chanterez la chanson de Tavira. Ah, Tavira, Tavira.
Écoutez, je vous laisserai me l'apprendre, on fera un karaoké ensemble.
Avec plaisir.
Bon, écoutez, en tout cas, on était ravis de vous avoir en ligne aujourd'hui en direct de Paris. Merci beaucoup donc à votre intervenant, Jérémy, pour justement avoir parlé de télétravail, c'est vrai qu'on a appris un grand nombre de choses et puis qu'aujourd'hui,
de choses et de précautions à prendre.
Et je pense que de toute façon, c'est une activité qui va vraiment.
Qui va se structurer.
De toute façon, on n'aura pas le choix. Donc voilà. Et puis je vois que Jérémy, vous avez pu faire de bonnes réunions, donc très profitables. Alors je pense que ce sera de toute façon de plus en plus le cas pour de très nombreuses personnes. Je pense que ça ne fait pas forcément plaisir aux compagnies aériennes qui, elles, vont peut-être perdre des revenus parce qu'il y aura un peu moins de déplacements. Merci Elena. Bon vol, Elena. Et on se retrouve très rapidement. En tout cas, par Zoom, pour parler. Puis là, vous serez dans un cadre idyllique. On le rappelle, le Portugal vous attend avec plaisir. À très bientôt. Il est 12h03. Voilà, on est presque à l'heure. C'est l'heure des infos, la rédaction de Paris. Et on se retrouve juste après. On va parler de recettes. À tout de suite.
Vous écoutez la French Radio.
Et je disais pas que de recettes, parce qu'on va essayer aussi d'avoir un direct avec nos amis qui sont en mer, on le rappelle, qui sont en mer actuellement et qui sont...
Ils sont perdus au milieu
Non, ils ne sont pas perdus, non, pas ils perdu. Sont à la hauteur d'Étretat actuellement.
Oh, voilà. Les falaises,
voilà, ils ont passé Calais, là ils voguent vers Étretat. Et je pense qu'on va essayer d'avoir un direct avec eux quelques instants, c'est pas forcément évident. La liaison n'est pas terrible et ils sont entourés de gros bateaux. Voilà, ils font la descente entre Amsterdam et Lisbonne. Allez, c'est l'heure des infos. On repart tout de suite sur les infos.
Vous écoutez.
Waouh, c'est génial.
La French Radio.
Ah, mais c'est génial.
La French Radio. La French Radio.
Bonjour à tous. Didier Guillaume tape du poing sur la table. Le ministre de l'Agriculture ordonne la suspension immédiate de l'agrément d'un abattoir de Rodez après la diffusion d'une vidéo de l'association L214. Sur les images, on y voit des agneaux entassés et égorgés, parfois sans être étourdis. Des animaux issus de l'industrie laitière liée à la production du Roquefort. Une inspection complète de l'abattoir est programmée. La question de l'emploi au cœur d'une réunion entre Emmanuel Macron et les partenaires sociaux cet après-midi. Syndicats et organisations patronales au rendez-vous à l'Élysée. Le président de la République pourrait apporter ses premiers arbitrages sur le chômage partiel et la réforme de l'assurance chômage. C'est l'une des conséquences du déconfinement. Le climat des affaires s'est nettement redressé en France au mois de juin. On enregistre même la plus forte hausse mensuelle depuis le lancement de cet indicateur en 1980. Au cours de ce mois-ci, le climat de l'emploi a également connu un rebond. Il est devenu l'un des visages de la crise du coronavirus, Didier Raoult. Le controversé professeur marseillais sera entendu en fin d'après-midi par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Il devrait évidemment être interrogé sur l'hydroxychloroquine qu'il défend bec et ongle, mais aussi sur son retrait du conseil scientifique et sur les tests de dépistage réalisés au sein de son institut. La mise en garde des professionnels de santé en Grande-Bretagne, ils mettent en garde contre un vrai risque de deuxième vague du coronavirus, alors que le pays
pays se prépare à accélérer son déconfinement. Début juillet, les restaurants, les bars ou encore les coiffeurs pourront rouvrir. Les scientifiques demandent au gouvernement britannique de prendre des mesures pour contenir une éventuelle deuxième phase de l'épidémie. Et puis, l'heure des derniers préparatifs avant la réouverture de la Tour Eiffel. Demain, la Dame de Fer, fermée depuis le 13 mars, va de nouveau accueillir des visiteurs, mais dans des conditions particulières. Sécurité sanitaire oblige. Dans un premier temps, seuls les escaliers seront accessibles. Le port du masque sera obligatoire. Voilà pour l'essentiel de l'info. Passez une excellente après-midi.
Voilà, c'était les infos de la rédaction de Paris. Donc, on remercie encore Elena Morna pour être intervenue aujourd'hui, nous avoir fait une émission en direct.
Direct à distance.
À distance, c'est ça le télétravail.
Télédirect, comment ça se dit.
Je sais plus, en tout cas, bon voilà. Qu'est-ce que je veux dire ? Alors, on devait parler recettes. Recettes.
Mais on a notre François de Bloodwine. De Bloodwines qui évidemment livre son vin et qui est pris dans les bouchons et n'est pas disponible parce que bon, conduire ou parler à la radio, il faut choisir et il a choisi de conduire. Parce que...
Bon, en tout cas, sûrement qu'il nous écoute. Donc, d'abord, voilà, donc on le rappelle.
Il se lamente, il se tord les mains.
Ah, il se tord les mains. Mais enfin, bon, c'est bien parce que ça veut dire qu'il est en train de livrer. Donc,
mais oui.
Donc, c'est une très, très bonne chose. Voilà.
N'oubliez pas que François de Bloodwines vous livre partout dans le monde. Tout ce que vous voulez, vous donne des conseils, vous livre des vins
d'exception.
D'exception ou des vins vraiment des petits vins sympas à des prix.
Voilà, que ce soit des vins.
À 7 ou 8 euros, je crois, chez lui. Enfin, on a vraiment des.
Oui, que ce soit des vins qui soient des vins portugais
ou vins français,
donc
jusqu'au des champagnes, des grands vins. Enfin, tout est chez Bloodwine si vous avez.
Exactement.
Besoin d'une petite bouteille ou de 200 bouteilles, vous l'appelez.
Bon, qu'est-ce que je vous propose ? Je vous propose qu'on mette un petit peu de musique.
Ah oui, avec plaisir.
Allez, on va écouter Chris Rea, Joséphine.
Oh, toute une époque.
Toute une belle époque. J'espère qu'on n'aura plus de petits problèmes de son, parce que là, c'était quand même original. Hein,
oui, c'était pas mal, le
jingle version...
Version japonaise de la French Radio.
Et puis, on va essayer d'avoir nos amis
navigateurs
qui sont à la hauteur.
Capitaine abandonné.
Capitaine... Ah, j'aurais dû mettre ça, capitaine abandonné. Tiens, vous me faites penser. Attendez, on va voir tout de suite si on arrive.
C'était Gold, rappelez-vous, c'était Gold.
Capitaine abandonné.
Oui.
Ah non, moi, j'ai Capitaine Flamme qui sort, donc c'est pas
Capitaine
bon.
Capitaine Flamme, c'est pas pareil.
C'est pas la même chose. Bon, écoute, c'est peut-être Capitaine... Non, on leur souhaite pas de faire Capitaine Flamme.
Non, ni abandonné, ni flamme.
Allez, bon, écoutez, on va essayer de les revoir pour avoir un petit direct. Et puis sinon, on le rappelle qu'ils sont actuellement à la hauteur à peu près du Touquet. Ils viennent de passer Calais et là, ils sont en train de descendre.
Un bisou à Brigitte en passant.
Voilà, ils sont du côté français. Hein. Je viens de les voir sur le... Vous savez que vous avez un système aujourd'hui qui vous permet de suivre les bateaux.
Bien sûr.
Hein ? Non, mais c'est vrai en plus.
Oui.
Vous avez un bateau, vous avez un
système satellite.
Un système satellite et qui permet d'avoir tous les bateaux.
C'est le GPS en fait. Hein.
C'est un GPS, ni plus ni moins, pour tous les bateaux. Et tous les bateaux sont référencés là-dessus. Il suffit de taper le code du bateau et vous pouvez les suivre pendant tout leur... Voilà, moi j'ai vu, ils sont partis de Harlem, en fait, Amsterdam. Hop, ils ont commencé la descente. Et ils ont pas mal navigué déjà, hein, parce que là, maintenant, ils sont déjà sur les côtes françaises. Et puis après,
Je pense que là, les vents doivent être relativement faibles là, en ce moment.
En tout cas, il fait beau.
C'est assez
il fait beau, il fait chaud. En tout cas, ils sont bien bronzés. Ils ont des lunettes de soleil. Ça, c'est clair. Bien. Moi, je vois des images. On va pas les...
Qui mettent de la crème.
Qui mettent de la crème. Allez, un peu de musique, on va essayer de faire une liaison avec eux et on se retrouve dans quelques instants. Écoutez, voilà, c'est les avantages du direct. On est directement en ligne. Bonjour, messieurs. Voilà, on va essayer de vous suivre. Vous êtes en ligne et en même temps, on va essayer de faire un direct avec Facebook. Je vais le faire directement aussi. Voilà.
Ah, tu voulais ? Tu veux comme ça ou comme ça ?
Comme ça, c'est parfait, c'est super. Attendez, je vais passer en mode plein écran, parce que voilà, autant dire les choses. Pas forcément. Ah, pourquoi c'est bloqué ? Maintenant, j'ai une image qui est bloquée. Ah non, c'est bon. Voilà. Alors attendez, on essaye de se mettre. Voilà, on est en train de vivre les choses en direct. Bon, comment ça va pour vous, Jean-Guillaume?
Je veux savoir où êtes-vous. Vous avez fait le point? Vous avez sorti le sextant ce matin? Vous avez relevé une droite?
On est en face de Étaples.
Ah oui, Normandie.
Étaples, oui. Il y a le fromage là-bas, mais on n'a pas, nous.
Vous n'avez pas de fromage? C'est dommage.
Non, ça va.
Les conditions sont comment?
Il y a pas le vent. Il y a peu de vent aussi. Alors, on navigue, voit le moteur.
Ah oui, c'est ça, il n'y a pas de vent. Vous êtes, c'est très anticyclonique, la France, là.
C'est pétole molle, comme on dit. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on est à 10 000 de la côte. Et on est complètement envahi par les mouches, les moustiques, les moucherons, les abeilles, toutes sortes de choses volantes qui nous ont envahis depuis ce matin.
Et vous ont repéré.
Ouais. Oui, il y a une chose qui est assez troublante, c'est la diminution du trafic de bateaux dans la Manche. C'est vraiment... impressionnant, comme en dehors du port de Rotterdam, il y avait des dizaines et dizaines de bateaux à l'ancre et qui apparemment n'ont pas de travail, n'ont pas de boulot. Tout est stoppé. La Manche, ici où on est maintenant, elle est pratiquement vide. Il y a 3-4 bateaux à voile, plus il y a des marchands qui passent de temps en temps, mais c'est vraiment, on attendait quand même un peu plus de trafic, mais cette histoire de Covid, machin, a complètement arrêté l'économie par ici, c'est affreux.
Par ici et dans le monde.
Oui, c'est affreux.
A contrario, vous êtes plus en sécurité, hein, du coup.
Ben, ça a été l'agréable surprise, en fait, parce que du coup, la navigation de nuit pour passer Rotterdam, le Pas-de-Calais, toutes les fermes éoliennes, il n'y avait personne sur la route, en fait. Tu avais des parkings gigantesques avec des centaines de bateaux au mouillage et on a croisé, je ne sais pas, toute la nuit. Alors, moi, je n'ai pas fait toute la nuit, mais en tout, on a croisé, je sais pas moi, pendant mon quart de 3 heures, on a dû croiser trois gros bateaux, alors que cet endroit d'habitude c'est franchement mouvementé.
Oui.
Et est-ce que vous avez vu des bateaux faire les traversées entre parce que vous avez passé Calais, est-ce que vous avez vu les ferries passer un petit peu entre Calais et
les ferries, oui, ça sûrement, hein. pas quand même comme ils étaient avec la même cadence, mais si, pas mal de ferries, ça c'est sûr. Ça continue à être quand même une voie assez intense, quoi.
D'accord. Donc, si on a bien compris aujourd'hui, on a moins de trafic aujourd'hui dans la Manche qu'en temps normal. Il y a quand même moins de bateaux. Donc, finalement, pour vous, c'était quand même plus simple parce que ça évite tous les risques, hein. Il y a quand même...
Ouais, ça évite un gros stress quand même.
Un gros stress parce que...
Parce que grosso modo, c'est à peu près être en trottinette sur une autoroute avec des 38 tonnes qui vous croisent, quoi. Donc,
à peu près, oui, j'en dis. Hein, c'est à peu près ça.
Ouais, donc c'est mieux comme ça. Hein. Enfin, nous, on préfère. Hein. Parce que sinon, si c'est pour que ça s'arrête au bout de 3 jours, vos reportages, ça va être beaucoup moins intéressant pour nous.
Oui. Et on s'attendait avec un peu plus de vent. Et on va décider si on s'arrête à Cherbourg ou si on va direct à Brest. Ça dépend du temps et ça dépend des conditions de vent. Alors, on va décider ça demain très tôt le matin.
Donc, vous allez décider pour savoir où vous partez. Hein. C'est vous allez vous arrêter. Vous allez faire donc une escale de quoi? De 24 heures? Je crois que la liaison
Eric, il n'y a plus de micro chez vous là-bas.
Ouais, là on n'a plus de liaison.
Non, je pense qu'il n'y a plus de micro en tout cas. Mais
ouais, là on ne vous voit plus en micro. On va essayer de vous réactiver le micro. Ah, ça y est, si, voilà, allez, vous voilà.
Oh, bonjour, ça va? Non, je disais que ça dépendra des conditions. Si on s'arrête à Cherbourg ou pas, mais on va décider ça aux premières heures du matin, demain matin. Ça veut dire vers 5-6 heures du matin. On va décider si on s'arrête ou bien on va direct à Brest.
Okay. Dès que vous avez pris la décision, vous appelez Thierry hein, vers 5 heures, il aime bien.
Non, parce que maintenant, la prévision, ce n'est pas bien parce qu'on risque d'avoir le vent en face pendant une centaine de milles, il y a une vingtaine de nœuds, et avec des eaux à 1,20 m, alors ce n'est pas plaisant ça.
Bon, bah en tout cas, ouais, on vous entend très mal. Je pense que là, vous êtes quand même très, très éloigné de la côte. Donc, on vous voit. C'est pas forcément évident de pouvoir se parler en même temps. Donc, on vous souhaite oui. Bah de
continuer d'être bien prudent.
D'être prudent. Et puis on se retrouve en ligne dès que vous serez plus près des côtes. Et puis, vous nous direz un petit peu déjà comment s'est passée cette traversée de la Manche. Voilà. Donc, on rappelle maintenant, vous visez Cherbourg. Ou Brest.
Ouais.
Et puis ensuite, ce sera le golfe de Gascogne et la Corogne.
Bon, À Cherbourg comme à Brest, il y a une rue de la Soif, donc vous serez bien accueillis.
C'est bon, les rues de la Soif, il y en a dans le monde entier.
C'est okay. Exactement.
Merci. On se voit demain alors.
Avec plaisir. Bonne route. Allez, bonne route,
et puis on se voit, on se parle le plus rapidement possible. Voilà, c'était en direct actuellement, vous êtes au large du Touquet, des Tapes, et donc là vous continuez en direction soit de Cherbourg, vous prendrez la décision, vous allez passer bien entendu toute la nuit à traverser la Manche pour arriver dans l'océan Atlantique. Voilà, océan Atlantique que vous ne quitterez plus jusqu'à Lisbonne.
Si tout va bien.
En tout cas, vous avez très beau temps, parce qu'en France, il fait très, très beau, mais au Portugal aussi, on le rappelle. Allez, une très bonne journée à tous. On va rendre l'antenne.
On précise que vendredi, pas d'émission.
Oui, vendredi, il n'y aura exceptionnellement pas d'émission. Et on se retrouvera lundi prochain.
Absolument.
Voilà.
Bonne journée à tous.
Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre et de votre confiance. Et
n'oublie pas de soutenir nos restaurateurs, voilà. Que ce soit le Samuel, le comptoir parisien et tous les autres.
Voilà.
Qui ont bien besoin de votre présence, de vos présences dans leur salle ou sur leur terrasse en ce moment.
Et attendez, c'est quand même pas tout, parce qu'on va parler aussi quand même quelques instants de notre ami qui, lui, n'est pas en mer, mais qui, lui, est bloqué sur les autoroutes par la circulation, on parle de Blue Wine, qui devait intervenir en direct avec nous comme il le fait à chaque fois. Mais là, il est au volant. Et c'est pas forcément évident de faire une émission. On peut le comprendre.
Non, c'est mieux de ne pas faire une émission quand on est au volant quand même. Ça, c'est recommandé, hein, de ne rien faire d'autre que de conduire quand on est au volant.
Exactement. Allez, on va repositionner. On était en train d'écouter il y a quelques instants. On va remettre
remettons Chris
Joséphine
Réa.
Et ensuite, on reprend le cours normal de nos émissions. Ciao, bonne fin de semaine
à
et à lundi en direct. Ciao.